se retrouver ensemble et de partager ce merveilleux message. J'aimerais ouvrir tout de suite la Bible avec vous, vous saluer, vous apporter les salutations, bien sûr, de vos frères et sœurs qui sont à Aix-les-Bains, en train d'adorer, eux aussi, le Dieu vivant et vrai. Et nous voulons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 30. Deux lectures ce matin, j'ai pas, me tenant devant Dieu, je vais vous rappeler quelque chose que vous connaissez bien sûr déjà, et je voudrais vous dépeindre, comme l'apôtre Paul savait le faire, et ce matin, vous dépeindre Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu ce matin. Amen. Et Dieu veut véritablement accorder sa grâce et sa puissance à ses enfants. Amen. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19, au verset 30, évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, nous lirons un deuxième texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, mais j'aimerais d'abord passer un moment sur ce vinaigre. Il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est là un passage de la vie de Jésus qui est un passage, le passage final de sa vie. Nous sommes là à la croix. Jésus, le Fils de Dieu, est en train de verser les dernières gouttes de son sang. C'est un spectacle rempli de sang. Le sang de Jésus a coulé jusqu'à la dernière goutte. On vient de lui tendre un bâton avec du vinaigre, du vin aigre. Et on va voir pourquoi il était tellement important que Jésus boive la coupe. Et il est tellement important pour nous de vivre une vraie repentance selon le cœur de Dieu, afin véritablement d'entrer dans la puissance de la nouvelle alliance, et que nous puissions considérer ce tétélestai, parce qu'en fait, littéralement, quand Jésus s'écrit « Tout est accompli », c'est comme si Dieu signait l'alliance d'une manière formelle. Vous savez que Dieu a écrit dans sa parole qu'aucune virgule ne peut être rajoutée, aucune lettre ne peut être rajoutée à cette parole, parce que Jésus y a mis son sceau. Tout est accompli. Il n'y a donc rien à rajouter, rien à soustraire à la puissance de Dieu. Il est suffisant à lui seul pour vous sauver. Tant il est vrai que vous ne pouvez pas vous-même sauver même la couleur d'un de vos cheveux. Mais Dieu est capable de racheter votre vie tout entière. Amen. Et ce matin, de vous donner la victoire sur toute forme de péché. Visitant les églises et étant pasteur depuis plusieurs années, mon cœur saigne et souffre devant la situation, l'état des cœurs qui sont souvent encore aux prises après des années, aux prises avec certaines formes de péché et n'arrivent pas à entrer dans cette alliance merveilleuse, n'arrivent pas à découvrir qu'à la croix, tout est accompli. Il n'y a donc aucun effort, aucune force que l'homme peut y ajouter. Mais il y a à croire à toute la puissance de Dieu. Et l'Évangile, tel qu'il est annoncé, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, non pas la nôtre. Ce n'est pas par vos mérites, ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas par une force d'élocution, ce n'est pas par une psychologie quelconque, mais c'est uniquement par la grâce de Jésus-Christ que nous pourrons ensemble, ce matin, remporter la victoire et savourer, puisque nous avons partagé la scène, savourer ensemble la vie de Jésus. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la prendre, mais il s'agit qu'en nous se dégage une saveur. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous ait donné le goût. Et si nous partageons ce morceau de pain et ces éléments de la scène, nous voulons surtout goûter la bonne odeur de Jésus-Christ et goûter le festin qui nous est accordé ce matin. ce festin royal qui nous permet véritablement une vie nouvelle. Et il n'y a qu'au travers du spectacle de la croix, qui est une folie, eh bien, que nous pouvons découvrir la puissance de Dieu. Il s'agit pour nous vraiment de toute la force que Dieu a donnée. Sous l'ancienne alliance, tout n'était pas accompli. Et la Bible nous dit que Dieu, dans la nouvelle alliance, eh bien, nous a donné une alliance en tout point parfaite. Si vous restez dans l'ancien, dans l'ancienne alliance, alors vous allez devoir la compléter. Et nous sommes arrivés à Aix-les-Mains, où il y a une grande communauté juive. J'aime beaucoup aller les voir et partager un petit peu. Ils vont s'asseoir le jour du Shabbat. Ils s'assoient dans le jardin et puis ils ont de très beaux livres. Ils sont amoureux de la lecture, bien sûr. Ils sont amoureux de la loi. Et quand on aime la loi, on est amoureux de la lecture. Quand on aime Jésus, on est amoureux de la vie. Alors, il y a un endroit où on peut se retrouver, c'est dans le jardin. Et ces gens-là ont de beaux livres, mais ils ont besoin de rajouter. Et ils ont besoin, sous l'ancienne alliance, ils ont besoin de faire un effort. Fais cela et tu vivras. Mais béni soit Dieu de ce que ce matin il nous donne de croire en lui, afin que lui nous communique la vie. Parce que nous ne pouvons pas, par nos efforts et nos mérites, eh bien, toucher même le plafond. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Celui qui vous parle ce matin était un aventurier. Je suis un ancien aventurier. Je vivais loin de Dieu. On m'a offert la Bible. Je l'ai laissée dans le fond de mon bateau pendant des années. Et je n'ai pas cru en Dieu. Je suis allé dans plein de pays. Au Brésil, on m'a parlé de Jésus. Aux îles du Cap-Vert, on m'a parlé de Jésus. En Martinique, on m'a parlé de Jésus. On m'a parlé de Jésus dans tous les pays du monde. Et j'ai dit, si Jésus est vivant, c'est lui qui viendra me parler. Et c'est Jésus qui m'a saisi. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est pas moi qui ai choisi Dieu. C'est Christ qui m'a choisi. Et ce matin, c'est pas vous qui avez décidé, et même avec vos efforts et votre bonne volonté, même en vous tenant dans la glace et en mettant votre cravate, eh bien, c'est pas vous qui avez choisi d'être ici, c'est pas moi non plus, mais c'est Dieu qui nous saisit pour nous approcher de sa table, parce que c'est lui qui veut nous communiquer quelque chose. Moi, je viens d'Aix, mais Dieu veut vous communiquer quelque chose. Est-ce que vous croyez ça? Dieu veut vous communiquer sa vie afin que vous soyez vraiment au bénéfice de son alliance, de cette alliance qu'il a traitée au travers de son sang. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, disait Jésus. Et il l'a donnée afin que nous ayons une vie abondante. Je ne sais pas comment est votre vie, mais Dieu voudrait que nous ayons une vie abondante, une vie de témoignage abondant, une vie dans la victoire qui soit abondante. Une vie d'église qui soit riche, non pas d'un culte par semaine, mais de communication puissante, de vie, d'interface de vie entre nous. Je suis sûr que vous avez des choses à m'apprendre. Je suis sûr que vous avez des choses à donner. Vous me suivez? Vous pouvez dire à votre voisin, t'as bien fait de venir ce matin. Dites-lui un peu, tapez-lui sur l'épaule, t'as bien fait de venir. Et à celui de l'autre côté, vous pouvez dire, t'as des choses à m'offrir. Parce que Dieu vous a donné à tous quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Et c'est important que nous réalisions que nous sommes au bénéfice. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous sommes au bénéfice du Saint-Esprit. Cet esprit que Jésus a soufflé, qu'il a rendu, est parti au ciel. Il a dit, vous êtes avantageux, parce que vous recevrez une puissance. Vous recevrez l'Esprit de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous. Amen. Afin de nous conduire au triomphe véritable de la croix. Alors on va voir où, est-ce que vous voulez qu'on continue ? On va voir où nous conduit ce tout accompli. Actes des Apôtres, chapitre 2. Bien sûr, après la croix, il y a la résurrection. Et tout de suite après, il y a les Actes des Apôtres. On pourrait dire les actes de l'Église naissante. Et comment le Saint-Esprit va conduire. Et comment il veut nous ramener et nous conduire aussi. Jusqu'au cœur. Jusqu'à cette signature de Dieu dans chacune de nos vies, où Dieu pourra écrire dans nos cœurs « Tout est accompli ». Est-ce que vous voulez que Dieu puisse écrire dans vos vies « Tout est accompli » ? Alors il va falloir que des choses changent. Il va falloir que des choses soient transformées, afin que Dieu puisse dire « J'ai fait de cet homme un chef-d'œuvre. Tout est accompli ». Et c'est pour ça que Jésus dira que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, que Dieu puisse écrire dans sa vie « Tout est accompli ». Et c'est là le rôle le plus important du Saint-Esprit, bien sûr, acte 2, verset 42. Il est question des premiers disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que nous avons commencé à faire. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. Réalisons ici que quand Jésus va dire « Tout est accompli », quand son esprit va partir, auprès du Père, le jour de la Pentecôte, quand il va revenir et s'introduire dans le cœur de ces hommes, eh bien, le tout accompli va s'accomplir par le Saint-Esprit de différentes manières. Et tout d'abord, ce que Dieu veut et ce que Dieu peut faire dans la Nouvelle Alliance, c'est placer dans nos cœurs la crainte de Dieu. Quand nous vivons dans le péché, quand nous vivons dans le monde, nous vivons sans crainte. Nous avons quelquefois des peurs, hein, des superstitions, mais Dieu veut nous enseigner la crainte de l'Éternel. Et la Bible nous montre que sous l'ancienne alliance, bien sûr, les prophètes, les hommes de Dieu, avaient une certaine crainte de l'Éternel. Mais le peuple n'arrivait pas à avoir. Or, la Bible dit que Jésus, baissant la tête, a rendu l'esprit. Or, qui est ce Jésus ? La Bible nous montre comment Jésus marchait et ce qui était dans son cœur. Ésaïe, prophétisant à propos de Jésus, dira « Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur un oui dire « Amen ». Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Il n'avait pas peur des hommes qui voulaient quelquefois l'amener. Hein. Quand ses disciples sortaient d'une réunion, ils disaient « Oh pasteur, rabouni Jésus, il y a là une foule qui t'attend. Reculez-vous, je pars dans un village désert. » Il n'avait pas peur des hommes, mais il respirait la crainte de l'Éternel. Et Jésus disait « Je me dois aux affaires de mon Père. » Amen. Je crois que le Saint-Esprit veut mettre en nous cette respiration. Non pas ce que veulent nous faire faire les traditions, même les traditions évangéliques, mais de ce que Dieu veut nous mettre à cœur. Il respirera la crainte de l'Éternel. Je crois que dans chacune de nos villes, Dieu veut sauver des hommes et des femmes. Mais il ne le fera peut-être pas de la manière dont nous percevons les choses, mais de la manière dont lui la perçoit. Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est l'apôtre Paul, dès sa conversion, alors qu'il est saisi lui aussi, il dira, c'est pas moi qui ai saisi Jésus, j'ai fait une chose, j'ai essayé de toucher Dieu, mais c'est lui qui m'a attrapé. Et cet homme lui-même dira, et va se présenter comme quelqu'un qui, maintenant, vit dans le respect de Dieu. Il ne s'agit pas d'être peureux devant le Père, mais il s'agit d'avoir un tel respect pour lui. N'est-il pas celui qui, on a bien sûr, et vous avez certainement aussi ici, célébré Noël, quelle grâce extraordinaire de fêter le roi de l'univers qui s'est fait annoncer par la venue d'une étoile, mes amis. Alléluia. Et comment ne pas se prosterner devant son nom? Lui qui déplace les étoiles dans le ciel, ne peut-il pas déplacer ses serviteurs là où il le veut? Et ce Jésus qui respire la crainte de l'Éternel ne se laisse pas déplacer par les hommes, mais il fait ce qu'il voit faire de son Père. Amen. Et nous voulons réaliser que la première chose que le Saint-Esprit met en nous et doit pouvoir mettre en nous, c'est la crainte de Dieu. Non pas une crainte de peur, mais un profond respect pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il nous a communiqué. Et c'est important de réaliser que Dieu veut nous communiquer véritablement cette crainte, ce respect de sa parole. Ésaïe, lui encore, dénoncera un fait de cette alliance, de l'ancienne alliance. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La tradition, vous savez que Jésus entrait dans les synagogues selon sa tradition, chaque Shabbat. Mais il n'était pas lié par la tradition. Et d'ailleurs, entrant dans les synagogues, il guérissait les malades le jour du Shabbat. Est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il peut bouleverser notre culte et nous faire entrer dans le sien? Dans le sien où il n'y a pas de malades, où les malades sont guéris, où les boîtes marchent, où nous pouvons publier à tout instant cette bonne nouvelle. Il est ressuscité et il est au milieu de nous pour accomplir son plan et mettre dans nos cœurs la crainte de son nom. Ésaïe lui-même révélera le trésor, Ésaïe 33, verset 6, « Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen. » Il y a donc un trésor à découvrir. Alléluia. Et il y a un trésor véritable qui n'est pas dans le fait d'une fanfaronnade évangélique, mais qui est dans le fait de quelque chose que Dieu a mis dans nos cœurs. Et c'est la crainte de son nom. Alléluia. Un seul nom par lequel vous puissiez être sauvés, et c'est le nom de Jésus. Je me suis converti des années en arrière sur une autoroute, puisque c'est dans ma voiture que Dieu est venu me chercher et qu'il m'a saisi. Et pendant 10 jours, je n'ai pas pu prononcer le nom de Jésus. Je parlais de Dieu, mais je ne pouvais pas prononcer le nom de Jésus. Pourtant, c'est lui qui était venu me sauver. C'est lui qui avait guéri instantanément mon fils, qui se trouvait à plusieurs kilomètres, à l'hôpital, il l'a fait. Mais j'étais incapable de prononcer son nom. Une telle force avait rempli mon cœur. Une telle beauté était devant moi que je ne pouvais que m'incliner devant sa majesté et garder la bouche fermée devant une telle puissance. Oui, que Dieu puisse, au travers de ce tétélestai, nous accorder la grâce de vivre la vraie crainte de l'Éternel, le vrai amour, le vrai respect. Le vrai respect, mes frères et sœurs, mes sœurs, mes frères, que ce soit pour un homme, pour une femme, le véritable amour, c'est le respect de l'autre. Et Jésus s'y trompe pas. En nous voyant ce matin, il s'y trompe pas. Il nous force pas. Il ne nous viole pas. Il nous dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu ce matin que Dieu te fasse? Veux-tu qu'il écrive dans ton cœur sa crainte? Laisse-toi écrire ce mot, tétélestai. Tout est accompli. L'ancienne alliance ne pouvait pas mettre la crainte dans le nom. Mais le Saint-Esprit est venu pour écrire dans nos cœurs la crainte de son nom. C'est tellement vrai que le psalmiste dira, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Il a mis dans nos bouches un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. C'est important que nous ayons un cantique nouveau. Alléluia! Alors bien sûr, des louanges, bien sûr nos chants, mais un cantique nouveau. Un temps où l'on puisse dire « Seigneur, merci » d'écrire dans ma vie, d'écrire dans mon cœur au travers de ce sang merveilleux un plein pardon de mes péchés. On va y venir après parce que c'est quand Jésus a pris le vinaigre qu'il a crié ça. Et on va voir où cela nous conduit. « Enseigne-moi, dira le psalmiste, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Quand il n'y a pas de respect, alors il y a du débordement. Il n'y a plus de respect pour le véritable amour. Qu'est-ce qu'il y a dehors? La pornographie. Il n'y a plus de respect civique. Qu'est-ce qu'il y a dehors? De l'incivilité. C'est aussi simple que ça. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est important de le vivre. Dès le début de la Nouvelle Alliance, quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, si vous aviez été là, et souvent quand je lis ce texte, mais je dis, mais Seigneur, comment ont-ils fait après avoir vu tant de miracles? Comment ont-ils fait pour s'égarer dans le désert? Et vous êtes obligés de revenir à ce tétélestai. Comment ont-ils fait? Mais le sang n'avait pas coulé pour eux. Mais pour nous, le sang de Jésus a coulé. Et pourtant, Dieu lui-même dira, dès qu'il, après leurs 40 ans dans le désert, à ce nouveau peuple qui va entrer, cette nouvelle génération, ils vont passer à Gilgal, c'est l'action de rouler. Et bien sûr, ça nous parle de rouler nos péchés. Gilgal, ils vont passer de pieds secs au milieu du Jourdain, et la Bible dit, et c'est Josué qui va confirmer les choses, afin que tous les peuples de la terre, pour nous aussi ce matin, sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Quand on a goûté au pardon de ses péchés, quand on est passé au travers de la mer, quand on a vécu le baptême, par immersion, pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi? C'est pour avoir des slogans? Non. C'est pour vivre dans la crainte de l'Éternel. Afin que ce peuple sache toujours et ait toujours devant ses yeux la crainte de l'Éternel. Et voilà pourquoi à Gilgal, Dieu a roulé l'opprobre, littéralement. Il a pardonné au peuple ses 40 ans de désert. Ces 40 ans de péché, savez-vous que ce matin, Dieu veut vous pardonner complètement? Peut-être plusieurs vivent, on marche et marche encore dans un désert. Ah ouais, pasteur, pour moi, c'est loin d'être le triomphe. Pour moi aussi, il y a des moments où c'est loin d'être le triomphe. Mais je veux revenir à la croix. Alléluia. Parce qu'à la croix, il y a la puissance de Dieu. À la croix, il y a, juste avant la croix, Jésus a pris le vinaigre. Il y a Gilgal. Il y a l'action que Dieu a faite. Parce que je ne pouvais pas la faire, parce que vous ne pouviez pas la faire. Vous ne pouviez pas ouvrir le Jourdain. Il y a certaines choses, vous vous en souvenez, mais vous ne pouvez pas vous les pardonner. Mais Dieu a la capacité. Il est plus grand que vos cœurs, dit la Bible. Et il a la capacité de pardonner tous nos péchés. Tout est accompli. Amen. Est-ce que vous acceptez que la crainte soit gravée en vous? Amen. On continue? Est-ce que vous désirez une victoire totale sur le péché? Une victoire totale. Et bien sûr, Jésus s'écrit Tetelestai une fois qu'il a pris le vinaigre. Ah, il y a des aigreurs, hein? Peut-être on est venu à Jésus, mais on a encore des aigreurs d'estomac. Le vin, c'est bon, mais quand ça vieillit, quand ça prend l'air, ça devient aigre. Et il y a des chrétiens, ils vivent une vie extraordinaire. Oh, c'est formidable! Et puis, ça prend l'air, tout ça. Puis c'est du vin aigre. Au départ, c'est une bonne chose, le vin. Mais si vous le laissez déboucher, il s'aigrit. Et Dieu veut nous communiquer, et ce n'est pas étonnant, parce que tous les uns et les autres, quand nous venons à Jésus, souvent nous sommes nettoyés d'un coup de tous nos péchés, il le fait. Il nous met au bénéfice de ce tout accompli. Mais il y a des choses qui traînent. Il y a de l'air qui passe. Et les plus belles conversions, eh bien, ont quelquefois, après un moment, des relents un peu d'aigreur. Et Dieu veut nous conduire à une victoire totale sur le péché. Et c'est pour ça que Jésus a bu toute la coupe. Alléluia. Il l'a bu entièrement pour que nous puissions ce matin, alléluia, savourer entièrement sa vie. Voilà pourquoi il s'est chargé de tous nos péchés. Et à ce tout accompli sur la croix, nous pouvons avoir la victoire sur nos péchés les plus récurrents. On garde quelquefois des vieilles manies, hein. Alors, ah, pasteur, Dieu m'a délivré de la pornographie, du tabac, de... Ah, encore, il y a encore ce vilain petit renard. Il n'y a personne qui le sait, hein. Les renards, ça se cache bien. Mais Dieu vient pour retirer les renards. Parce que les renards, vous savez, ils viennent dans la vigne quand elle est en fleurs. Et ils cassent les fleurs. Ce qui fait qu'on a des vies sans fruits. Mais Dieu veut nous communiquer vraiment ce matin une victoire sur tout le péché. À l'exemple de Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 26, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, c'est cet homme qui parle, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. » Alors lui, il ajoute à la crainte la frayeur. Pourquoi? Parce que c'est un tyran. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la frayeur en ce qui concerne son nom, mais qu'on ait simplement un respect profond. Mais cet homme rajoute qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Réalisez un peu ce tyran qui a le pouvoir de vie ou de mort, qui est là comme un, qui a une statue de sa personne de 40 mètres de haut, tout en or. Hein? Même les nouveaux, ils ne font pas mieux. Ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas les moyens. Mais celui-là a réussi. Et cet homme qui a le pouvoir de vie ou de mort, qui a le pouvoir de jeter dans ce feu, dans ces fournaises, les hommes et les femmes, va dans sa fureur en jeter trois d'un coup. Et il y en a quatre qui marchent au milieu du feu. Et cet homme va être saisi d'une frayeur. C'est pour ça qu'il dira que vous ayez de la crainte et de la frayeur. Lui, je crois qu'il a failli faire pipi dans sa culotte en voyant ça. Parce qu'il venait de donner un ordre de mort. Et peut-être dans vos cœurs, le péché cause encore la mort. Mais Jésus est vivant. Et au milieu de la mort, au milieu du feu, de l'enfer, Jésus marchait. Alléluia. Ramenant ses trois amis à la vie. Alléluia. Alors que les guerriers qui étaient chargés de les mettre au feu avaient été foudroyés, eh bien Jésus marche au milieu d'eux. Jésus est avec vous. Il veut vous faire sortir de la fournaise. Il veut vous donner une victoire totale sur le péché. Parce que sur la croix, il a écrit « Tout est accompli ». Cherchez pas par vos efforts. Cherchez pas par vos mérites. Mais laissez Dieu descendre dans votre feu. Laissez Dieu vous saisir de cette crainte et peut-être de cette frayeur. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je véhicule encore la mort. Le péché, c'est la mort. Avec ce mauvais caractère et ces mauvais mots, j'amène la mort dans ma maison. Oh Seigneur, viens au milieu de ma bouche. C'est un homme qui a vécu cette même chose, un homme de Dieu. Esaïe, qui va voir le trône de Dieu. Et il va dire, mais je suis un pécheur, je vis au milieu d'un peuple pécheur. Mes lèvres sont impures. Il a bien dû murmurer contre le peuple. Il dirait, il y avait de quoi? Il n'y a jamais de quoi. Parce que tout est accompli. Et Dieu va prendre sur l'autel avec des pincettes d'or. Il va prendre cette fournaise. En fait, il va prendre le cœur même de Jésus qui est là, en offrande. Tétélestai, tout est accompli. Il est là en offrande déjà. Et quand les lèvres du prophète vont être touchées, cet homme va se relever. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, si Dieu n'était pas venu ce matin toucher mes lèvres, comment pourrais-je vous parler? C'est par grâce. Et je vous vois attentif, mais c'est Dieu qui veut vous libérer de vos moindres péchés. Afin que vous ayez une victoire en tout point parfaite. Parce qu'il a pris le vinaigre. Parce qu'il connaît peut-être l'aigreur de ta vie chrétienne. Au lieu que ce soit un vin doux et léger, on rentre à la maison, on dit « Ah, c'était une belle réunion, mais à la maison, il y a de l'aigreur. » Et je te remercie, Seigneur, parce que ce matin, tu viens avec moi à la maison. Je ne veux pas seulement que tu sois un culte. Tu viens avec moi à la maison et t'enlèves l'aigreur de ma vie. Parce que toi, tu l'as bu. Et parce que toi, tu as signé pour moi. Amen. Une pleine victoire sur le péché. Est-ce que vous le croyez? C'est tellement vrai que dans la première église, on est là à la toute première église. Et on dirait, oh, c'est un culte formidable. Et on vient d'avoir Barnabas qui a fait une offrande. Le pasteur Ray, il est tellement content. On vient de lui offrir 50 000 euros. C'est formidable. Pour le projet d'évangélisation, c'est formidable. Et d'un seul coup, dans l'assemblée, il y a un autre couple qui vient, Ananias et Saphira. C'est la plus belle réunion d'évangélisation. Ah, ça ne commence pas par un concert. Ça commence par un service funèbre. Et la Bible dit que tous eurent une telle crainte. Il y a eu une telle crainte dans Jérusalem que des milliers d'âmes sont venues à Dieu. On n'osait même pas s'approcher des apôtres. On disait, ces gens-là, ils sont clean, sans péché. Et ceux qui s'approchaient, c'était vraiment pour être complètement libérés. Alléluia. Une pleine victoire sur le péché. Ananias et Saphira, dans la première église, eh bien, sont tombés morts, mais le peuple entier en a eu de la crainte. Alléluia. Et une grande foule s'est assemblée en disant, mais au milieu d'eux, il y a le Dieu vivant. On ne plaisante pas avec lui. Soit on vit avec lui, soit on vit contre lui. Béni soit le Seigneur, parce que ce matin encore, il veut nous faire entrer dans ce tout accompli. Il veut signer dans nos vies et y mettre véritablement la crainte de son nom, une victoire totale sur le péché et enfin une foi complète et une unité parfaite. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, mais nous sommes au privilège d'un enseignement formidable, une communication de vie. Et si vous lisez les actes des apôtres, ces gens ne sont pas venus apporter une nouvelle doctrine, ils sont venus apporter la vie. Alléluia. L'enseignement des apôtres, c'est un enseignement de vie. Vous n'avez pas besoin de Jésus dans un culte le dimanche matin seulement, vous l'avez besoin dans votre chambre à coucher. Vous l'avez besoin dans quand vous partez au boulot. Vous l'avez besoin dans votre cuisine, mesdames. Vous l'avez besoin dans vos relations avec vos enfants. Il est ressuscité. Alléluia. Il est la vie. Tétélestai. Il a tout accompli afin de me redonner la vie. Il a rendu son esprit afin que je sois au bénéfice d'un véritable enseignement. Jésus n'enseignait pas comme les pharisiens. Jésus enseignait la vie. Nous savons, Seigneur, que tu as les paroles de la vie. Amen. Et nous voulons vivre de cet enseignement, non pas d'un enseignement doctrinal qui fera de nous une nouvelle religion, pentecôtiste, baptiste, catholique, ou pas, vivant pour Dieu. Alléluia. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Un enseignement vivant qui communique la vie. C'est ça que Jésus donne. Et c'est l'enseignement de la foi. En vérité, dira Jésus, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Et c'est vraiment cette grâce extraordinaire. Quand Dieu écrit, tout est accompli, il me donne des paroles de vie. Afin maintenant que je vive pour lui. Et l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous n'avons plus notre pensée, nous ne faisons plus nos désirs, mais nous avons maintenant la pensée de Christ. Alléluia. Et c'est là, bien sûr, que Dieu nous conduit. Ce qui était au commencement, dira Jean dans son épître, ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Alléluia. Nous touchons à la vie même, ce matin. Et voilà pourquoi les malades peuvent être guéris. Par la foi, vous pouvez croire que ce matin, au milieu du culte, Jésus vient guérir. Parce que sa présence guérit. Jésus vient parce qu'il est plein de compassion. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Là, alors qu'il s'écrit, tout est accompli. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Amen. Et si ce matin nous pouvons vivre dans la paix et saisir, la vie de Dieu, c'est parce qu'il s'est écrié. Tout est accompli. Vous n'avez plus besoin, vous, de boire le vinaigre de votre vie. Mais vous pouvez vous approcher de Jésus en disant, Seigneur, tu l'as bu. C'est toi qui as bu mon aigreur, qui as bu ma rancœur, jusqu'à la lie, afin que ce matin je sois au bénéfice d'une parole de vie. Alléluia. On va s'incliner dans la prière, si vous le voulez bien. Et ceux qui veulent peut-être être au bénéfice.